Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour et merci d'avoir choisi Canal Académie. En France, nous aimons volontiers commémorer les événements historiques et c'est ainsi que nous pouvons nous souvenir qu'il y a 600 ans, en 1410, mourait Louis II de Bourbon, oncle maternel du roi de France et l'un de ses meilleurs conseillers. Le roi de France était Charles VI, ce pauvre roi atteint de crise de folie qui avait épousé Isabeau de Bavière. Et ce duc de Bourbon, ce bon duc Louis, avec un Y, Louis comme on le surnommait, soutenait dans son duché un ordre religieux particulier, l'ordre des Célestins, qui s'était implanté notamment à Vichy, au cœur du Bourbonnais. Alors mon invité, André Vaucher, de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, l'un des médiévistes les plus éminents de l'histoire religieuse entre le XIIe et le XVe siècle, a été invité cette année, 2010, à Vichy pour évoquer devant les Vichysois, un peu surpris d'ailleurs, ce qu'était l'ordre des Célestins. Bonjour André Vaucher.
Bonjour madame.
Donc l'ordre des Célestins, il est un peu oublié, même par les gens qui devraient s'en souvenir à Vichy.
Absolument, effectivement, en dehors d'une source à Vichy et de pastilles du même nom, les Célestins sont plus très connus en France et c'est un peu étonnant, mais compréhensible dans la mesure où ils ont été un ordre religieux qui a disparu à la Révolution et qui n'a pas été recréé, relancé au XIXe siècle.
Alors, quand a-t-il été fondé?
Parlons du début. Il y a quand même des traces des Célestins dans des villes de France. Il y a des quais des Célestins, à Paris par exemple, des places des Célestins ici ou là. Donc, ils ont laissé une trace dans la topographie.
Un théâtre à Lyon, je crois.
Vous avez raison. C'est comme l'ordre des Minimes, par exemple. C'est aussi un ordre qui a disparu à la Révolution et qui avait pourtant 150 couvents en France à ce moment-là et qui n'a laissé de traces qu'à travers les noms de rues et de places.
Voilà, alors maintenant, on va tout savoir sur ces Célestins.
Parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, les Célestins, c'est une histoire tout à fait étonnante, d'ailleurs, et passionnante. À l'origine, il y a un personnage qui s'appelait Pierre de Morrone, un ermite italien qui vivait dans les Abruzzes, en Italie centrale, enfin centre-sud, qui est né en 1215 et qui est mort en 1296. Alors, ce personnage n'aurait pas probablement dépassé une notoriété locale s'il n'était pas devenu pape. Et il n'avait pas régné en 1294, pendant 6 mois à peu près, sous le nom de Célestin V. Alors, revenons quand même sur l'histoire de cet homme, tout à fait étonnante. D'abord par sa longévité, parce qu'il a vécu 81 ans, ce qui à l'époque était assez extraordinaire, même si aujourd'hui ça paraît presque banal. Et donc, un ermite qui se retire dans une grotte, dans le massif montagneux de la Maiella, dans les Abruzzes, et qui, du fait de sa ferveur, de l'austérité aussi de ses pénitences, attire à lui une petite communauté informelle, comme on dirait aujourd'hui, placée sous le vocable, la protection du Saint-Esprit. Alors, on va les appeler les Frères du Saint-Esprit. Une congrégation d'ermites, donc, mais très locale, qui sera approuvée par le pape Urbain IV en 1263, puis qui va se développer.
Alors, ils avaient déjà une règle pour qu'ils aient été reconnus.
Voilà, le pape, lorsqu'il les a reconnus, les a obligés à se rattacher à l'ordre bénédictin. Donc, ils appartiennent au monde des bénédictins, mais ils ont des coutumes particulières, justement, parce qu'ils sont des ermites à l'origine. Et ils ont, par exemple, des exigences plus grandes que les moines en matière d'ascétisme alimentaire, par exemple. Ils pratiquaient aussi la flagellation quand ils...
N'avaient pas une vie conventuelle.
Voilà, alors ils avaient des petits couvents, puis ils formaient des petites communautés, c'est ça qui les distinguait des moines qui en général étaient assez nombreux. Et ils vivaient par petits groupes d'une dizaine au maximum. Et surtout dans des espaces solitaires, des montagnes, des petits villages, enfin, ils fuyaient les villes. Et donc il y a quand même des traces encore, même après leur régularisation, des traces de leurs origines érémitiques. Et puis, ils pratiquaient aussi beaucoup et ils accordaient une grande place à la pauvreté. Et ceci à une époque où, c'est le XIIIe siècle, c'est aussi la naissance de l'ordre franciscain. Et donc, ils étaient un peu sur la même longueur d'onde de ce point de vue-là. Et donc, un ordre très populaire, très proche des populations locales, des paysans qui recouraient à eux en particulier pour... Enfin, surtout à Pierre Célestin, Pierre de Moronne, le fondateur, qui avait une réputation de sainteté. Alors, on lui amenait des malades pour qu'il les touche, qu'il les guérisse. Et très rapidement, il a eu la réputation de faire des miracles. Donc, c'est un personnage vraiment charismatique, comme on dirait aujourd'hui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Encore une fois, cette congrégation n'avait pas une grande importance. Il y avait 35 monastères en 1294. Donc, c'était uniquement en Italie du Sud. Donc, ça restait relativement modeste. Et voilà que ce personnage, donc Pierre de Moronne, est élu pape le 5 juillet 1294.
On n'avait pas d'autre pape sous la main que d'aller chercher un ermite.
Exactement, on est allé chercher au fond de sa grotte, tout son petit couvent perdu au fond des montagnes, un ermite qui avait une réputation de sainteté et de grande austérité.
Il n'y a d'ailleurs pas beaucoup de papes saints vivent finalement.
Non, au Moyen-Âge surtout pas, très peu. Et donc, pourquoi ? Alors, comment est-ce qu'on est arrivé là ? Eh bien, parce qu'il y avait eu, après la mort du pape précédent, un conclave très long, il y avait deux partis qui s'affrontaient, et que pour devenir pape, pour avoir les deux tiers des voix, mais aucun des candidats de l'un ou de l'autre parti n'était arrivé à avoir les deux tiers des voix. Et au bout d'un an et demi de discussions et de tractations, le peuple chrétien a commencé à s'énerver, à dire qu'est-ce que c'est que ces cardinaux qui n'arrivent pas à se décider. Et finalement, ils ont trouvé un compromis, ils ont dit, bon ben, allons chercher un saint homme. En plus, il a déjà près de 80 ans, donc il ne fera pas de vieux os. Et donc, on reparlera de ça dans quelques années, quand les choses se seront un peu calmées. Voilà. Donc voilà cet homme qui n'avait aucune expérience administrative, qui n'avait jamais été évêque, qui se trouve propulsé sur le trône de Saint-Pierre. Alors, ça a suscité une grande ferveur populaire, parce que c'était un homme, encore une fois, très proche du petit peuple, guérisseur, thaumaturge, enfin bon. Alors, il va profiter, si je peux dire, mais c'est normal, du fait qu'il était pape, pour donner une assise plus forte à son ordre, qui reçoit les constitutions, va s'appeler les pauvres ermites du pape Célestin. Les pauvres ermites du pape Célestin.
Je trouve que c'est un très joli titre.
Alors, comme c'est un peu long, les pauvres ermites du pape Célestin, on les a appelés les Célestins. Donc, il prend le nom de Célestin V et il va régner 6 mois. Pourquoi 6 mois ? Ben parce qu'il est le seul pape de l'histoire qui a démissionné. Il a pris toutes sortes de décisions qui ont été contestées par les gens de la curie, qui le trouvaient trop généreux avec tous les demandeurs, qui le trouve aussi très maladroit à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui. La fonction pontificale était évidemment très liée avec le pouvoir politique. Donc il a fait quelques gaffes, comme on dirait aujourd'hui. Et au bout de 6 mois, un certain nombre de cardinaux ont fait pression sur lui, en lui représentant qu'il n'était peut-être pas l'homme de la situation et qu'il valait mieux qu'il se retire. Alors ce qu'il a fait, parce que lui-même était très conscient de ses insuffisances, et au bout de 6 mois, donc, il a donné sa démission. Et il a été remplacé aussitôt par un pape qui va faire beaucoup parler de lui, qui est le pape Boniface VIII, le grand ennemi,
le grand ennemi de Philippe
France,
le Bel.
C'est le bon. Philippe le Bel, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Boniface VIII ? On l'a accusé après, d'ailleurs, d'avoir fait pression sur ce pauvre vieux pape pour qu'il démissionne. Mais en tout cas, dès qu'il a pris sa place, Boniface VIII fait enfermer Célestin V dans un château, dans une prison.
Ça, c'est pas bien.
Voilà, ce qui n'est pas bien. Mais il craignait que tous ses adversaires ne se rallient à lui ou ne s'emparent de cet homme pour en faire un antipape. Donc, il préfère le mettre à l'ombre. Et le pauvre pape Célestin, ou ex-pape Célestin, meurt en 1296. Les mauvaises langues ont dit qu'il avait été assassiné sur l'ordre du pape. C'est Philippe le Bel et ses conseillers qui ont raconté ça. Ce n'est pas forcément exact. En tout cas, il meurt en 1296, un peu comme un martyr, au fond de sa prison. Alors, ce Boniface VIII, je ne vais pas vous raconter son pontificat, d'autant plus qu'il est très connu, puisque c'est lui qui a eu ce grand conflit à partir de 1300 avec Philippe le Bel et la France. Et à la fin, comme vous le savez, se produit ce qu'on appelle l'attentat d'Anani, c'est-à-dire des poignées, un commando, on dirait aujourd'hui, envoyés de France avec Philippe de Nogaret, et des ennemis italiens du pape s'emparent de Boniface VIII dans la petite ville d'Anani, le font prisonnier. Et donc l'empêche d'excommunier le roi de France comme il avait l'intention de le faire. Et quelques mois après, le pape, brisé par cette épreuve, meurt. Alors, à ce moment-là, commence un bras de fer entre Philippe le Bel et la papauté. Philippe le Bel veut faire condamner à titre posthume la mémoire de Boniface VIII, qui a osé entrer en conflit avec lui et a failli l'excommunier. Et pour y arriver à ses fins, Il demande au concile qui s'est réuni à Vienne à partir de 1306 de canoniser Célestin V, parce que Célestin V passait donc pour être une victime de Boniface VIII, donc en déclarant que Célestin V était un saint,
c'était
une manière de condamner les agissements de Boniface VIII. Donc le concile et le pape Clément V, qui se trouvait à la tête de l'Église à ce moment-là, ont négocié, hésité, etc. Et ont fini par canoniser en 1313 le pape Célestin, donc, qui devient Saint-Pierre de Morone ou Saint-Célestin V, comme on veut. Alors, premier acte, disons, la canonisation de ce personnage qui devient un saint authentique, on a le droit de vénérer officiellement dans les églises, etc. Deuxième acte, Philippe le Bel va introduire en France et protéger l'ordre fondé.
Couvents, alors voilà, des monastères.
Des monastères, oui. Et il n'y en avait pas jusqu'à présent, c'était un ordre purement italien. Il introduit en France, et ses successeurs vont soutenir, ce nouvel ordre religieux des Célestins. Alors, ça commence assez modestement, par un couvent fondé à Ambert, près d'Orléans. Et puis, au total, il y aura 17 monastères Célestins, fin du Moyen-Âge. Donc.
Et à Paris, je suppose, aussi.
Voilà. Alors, j'y arrive tout de suite. C'est surtout à partir de Charles V, qui a repris cette tradition de soutien aux Célestins, que le lien avec la monarchie française devient encore plus fort. Le roi favorise le couvent de Paris, qui avait été fondé par un bourgeois en 1352, mais qui devient un couvent royal à partir de 1370-80. Et l'ordre des Célestins se diffuse en toute la France, des couvents un peu partout, à Amiens, à Metz, un certain nombre de grandes villes. Voilà. Donc ce petit ordre obscur d'ermites, fond des montagnes d'Italie du Sud, est devenu un ordre protégé, spécialement protégé par les Capétiens, et il va le rester, officiellement jusqu'à la fin de la monarchie, mais disons sa grande époque de succès en France, de rayonnement, a été le XIVe et le XVe siècle.
Est-ce qu'il rayonne aussi en Europe ou seulement en France?
Il n'a pas eu beaucoup de rayonnement en dehors de France, parce que précisément, son succès en France est lié à l'appui que lui a apporté la monarchie capétienne. Donc, il y a eu quelques couvents ailleurs, mais ça n'a pas eu beaucoup de succès. Et alors c'est dans cette perspective-là que s'inscrit la création d'un couvent en Bourbonnais, le couvent de Vichy. Vichy qui, à l'époque, était une toute petite ville.
Alors on se demande pourquoi Vichy, justement.
Voilà, pourquoi Vichy? Eh bien, parce que c'était quand même un château, c'était le premier pont sur l'Allier quand on venait de Paris. Donc c'était un lieu stratégique important. Et les ducs de Bourbonnais, depuis le début du XIVe siècle, d'abord avaient acquis Vichy, et puis ensuite l'avaient fortifié. On avait fait un castel puissant, et autour duquel s'était développé un bourg. Bref, c'était un peu, je dirais pas une ville neuve, mais quelque chose qui leur tenait à cœur, et dans lequel ils s'étaient beaucoup investis. Alors ils vont installer, donc c'est le Louis II dont on célèbre dans cette année, par toutes sortes de manifestations, l'anniversaire, qui va implanter, à partir de 1403, les Célestins à Vichy. Alors pourquoi ce geste, cette initiative assez inattendue? Parce que Vichy est quand même encore une petite ville, et que le Bourbonnais n'est pas le centre du monde, ni même de la France. Mais ce Bourbonnais était en train de devenir, sous le règne de Louis II, une véritable principauté territoriale. Les ducs de Bourbon descendaient d'un des fils de Saint-Louis.
Du sixième fils de Saint-Louis, voilà.
Et à partir de Louis II, le comté de Bourbon, Bourbon-l'Archambault, a été érigé en duché. Hein. Donc c'est sous le règne de Louis II. Et avec la guerre de Cent Ans, et en particulier, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la folie de Charles VI, Louis II a été un des plus solides soutiens du pouvoir royal en France. Il était très, très loyal à Charles VI, à la différence de
ses autres oncles.
De Bourgogne, oui. Et Berry, qui eux cherchaient surtout à accroître leur possession et leur pouvoir. Donc Louis II est devenu un personnage vraiment important dans la monarchie française, au Conseil du Roi, et puis après, jouant un rôle modérateur, disons, ou essayant de jouer un rôle modérateur entre les passions déchaînées des Armagnacs et des Bourguignons. Enfin, là, on entre dans le contexte de l'histoire générale de la France à cette époque-là, qui est des plus troublées. Et alors, Louis II, qui a quand même régné une cinquantaine d'années, a été vraiment un personnage fondamental, puisqu'il a accru de beaucoup les États dont il avait hérité à sa naissance. Il y a ajouté l'Auvergne, il avait épousé d'ailleurs Anne Dauphine d'Auvergne, il a ajouté le duché d'Auvergne, qui à lui seul était plus grand que le Bourbonnais, il y a ajouté le Charolais, diverses terres dans la région du Nivernais. Bref, il a constitué un duché là, d'une grande importance et il va développer donc, des villes comme Moulins, par exemple. Il a fondé aussi une collégiale à Moulins. Enfin, donc, c'est un personnage qui essaye de s'enraciner localement. Vous voyez, dans cette époque de la guerre de Cent Ans, où chacun se sentait menacé par les Anglais ou par les voisins bourguignons ou autres, eh bien, il a essayé de constituer une principauté solide, bien administrée, bien défendue, avec des fortifications solides. Enfin, donc, et construire des monastères, c'est aussi une œuvre de, non seulement de bienfaisance, mais de piété. Voilà, donc il pensait également à son propre salut. Or, à toutes les époques, fonder une abbaye avait été une des meilleures actions qu'un prince pouvait faire, surtout avant de mourir.
Alors justement, vous parliez des Anglais, je crois qu'il a été échangé contre le roi de France.
Oui, alors il a eu un début de carrière, si je peux dire, difficile, puisque son père avait été tué à la bataille de Crécy,
c'est ça ? Voilà. Pierre Ier, oui.
Voilà. Et lui-même, donc, a été ensuite, après la paix de Brétigny de 1367, première étape de la guerre de Cent Ans, désastreuse pour la France, il est envoyé comme otage en Angleterre pendant 6 ans, donc, et il revient uniquement quand la totalité de sa rançon a été versée, donc... Ça commençait très mal, mais après, il a été de ceux qui, avec du Guesclin et Charles V, bien sûr, à partir des années 1370, ont refoulé peu à peu, après de longs combats qui ont duré des décennies, refoulé les Anglais, non seulement du Bourbonnais, mais jusqu'à la Guyenne, disons, à la fin, dans les années 1380, les Anglais ne conservent plus en France que la Guyenne, la région de Bordeaux. Et donc, c'est un grand recul dans lequel...
C'était déjà une grande surface.
Voilà, c'était beaucoup, mais c'était beaucoup moins que ce qu'ils avaient que 20 ans avant ou 15 ans avant.
Alors revenons à nos Célestins. Donc ils sont installés à la fois à Vichy, à Paris et dans bien des villes, vous l'avez dit, en France, à Compiègne, à Amiens, à Metz. Quel est leur rôle? Que font-ils? Ça n'est pas un ordre mendiant, ça n'est pas un ordre de prédication. Que font-ils? Ils suivent la règle de travailler et prier ou...
Voilà, ils sont, une fois qu'ils, surtout en France et surtout au XIVe siècle, ils sont devenus, disons, plus classiques qu'au XIIIe, où il y avait cet aspect érémitique et rural qui était à l'origine très fort, puis qui s'était atténué, surtout à partir du moment où ils s'installaient en ville, ils ne pouvaient pas vivre comme des ermites sauvages. Et donc, ils vivaient comme des bénédictins, en accordant beaucoup de place à la prière, à la liturgie, avec un accent particulier sur l'ascèse, je l'ai dit, ça restait important. Donc ils avaient un grand prestige par rapport aux autres bénédictins parce qu'ils menaient une existence ascétique. Et on avait cette conviction au Moyen-Âge que plus les religieux étaient religieux, plus ils se comportaient disons, de façon précisément austère, ascétique,
avec une grande discipline, oui.
Mais plus leur prière avait de poids, si je peux dire, en usant d'une métaphore, auprès de Dieu. Donc c'était un ordre qui était très bien vu, et bien vu surtout donc, du pouvoir royal, mais aussi de tout l'entourage qui gravitait autour de la cour de Charles V et surtout celle de Charles VI. Et il y a un personnage là qui a joué un rôle important et qui a dû influencer Louis II, qui est Philippe de Mézières. Alors, si vous me permettez une petite parenthèse, mais
oui,
c'est
sûr.
Important. Philippe de Mézières est un personnage tout à fait passionnant. C'est un noble de la région de Reims qui s'est mis au service de la monarchie française et est parti ensuite en Terre Sainte, enfin vers l'Orient, disons. Car il était de ceux, beaucoup plus nombreux qu'on le croit, qui espéraient toujours qu'on pourrait reconquérir la Terre Sainte en faisant une croisade ou des croisades. Et il est resté assez longtemps, aujourd'hui on dirait au Moyen-Orient, Il a été chancelier du royaume de Chypre, d'où il a organisé des expéditions qui ont échoué, mais enfin ça c'est un autre problème, pour essayer que les chrétiens reprennent pied en Terre Sainte. Après quoi il est revenu en France dans les années 1370, il est devenu un des conseillers, je dirais, conseiller spirituel ou ecclésiastique, tout en étant lui-même un laïc, mais dans les affaires religieuses, conseiller de Charles V pour les affaires religieuses. Et puis quand Charles V est mort, il a continué à exercer un peu le même rayonnement auprès de son fils Charles VI, au moins au début de son règne. Bon, Charles VI devient fou, les oncles s'emparent du pouvoir, à ce moment-là, il comprend qu'il n'a plus de poids politique, qu'il ne peut plus jouer un rôle politique, et il se retire chez les Célestins de Paris. Donc, c'est une histoire très intéressante, c'est un laïc, donc il s'est pas fait moine. Mais il se fait donner une cellule dans le monastère des Célestins, qui était précisément dans le quartier du Marais, quai des Célestins encore aujourd'hui. Et là, il mène une vie de méditation, de prière avec les moines, il participe aux offices et en même temps il écrit.
Il écrit, alors il a laissé une œuvre.
Il a laissé une œuvre très importante.
Que vous avez travaillé, je suppose.
Voilà, et M. Contamine aussi, mon confrère, a publié récemment tout un livre sur Mézières. Et en particulier, il a écrit « Le songe du vieil pèlerin », qui est un récit de toutes ses aventures, et qui est un texte très important pour la spiritualité de la chevalerie française, disons, à la fin du XIVe siècle. Quel rapport y a-t-il entre lui et Louis II de Bourbon? Ils se sont probablement connus, mais enfin, on n'a pas de témoignage très précis là-dessus. Mais il faut bien voir que Mézières était très lié avec la branche des Orléans, et que le couvent des Célestins est devenu un peu le panthéon dynastique des Orléans. Donc les ducs d'Orléans vont se faire enterrer là, et il y avait un monument funéraire qui a été construit par Louis XII, donc au début du XVIe siècle, aux Célestins, qui réunissait les corps de tous les membres de la famille d'Orléans. Voilà. Eh bien, c'est un peu sur ce modèle que Louis II s'est inspiré de cette expérience. Donc le couvent des Célestins de Paris était d'abord un grand foyer spirituel, mais aussi un haut lieu du culte monarchique et du culte dynastique. Et il a voulu en faire autant, semble-t-il, pour sa propre dynastie, son propre rameau de la famille des Valois. Et donc, en 1403, il ordonne la construction d'un couvent à Vichy. Et les travaux vont être assez longs, mais dans le document que nous avons conservé, où il ordonne la création de ce couvent, il se réserve... Il demande qu'on construise aussi un logis, comme pour Philippe de Mézières chez les Célestins de Paris, qu'il ait lui-même un logis
où il se retirera avant
la mort pour méditer sur son destin et surtout pour se préparer à ce qui l'attend. Voilà. Donc, on ne sait pas s'il a pu ou non bénéficier de ce logis concrètement, parce que quand il meurt en 1410, eh bien, le couvent n'est pas encore terminé. A-t-il pu quand même y séjourner ou y résider quelque temps? Mais il est significatif qu'il n'a pas fait élection de sépulture auprès des Célestins de Vichy, mais à l'abbaye de Souvigny, qui est une abbaye clunisienne, située près de Moulins. Alors, pourquoi Souvigny? Eh bien, parce que depuis le début du XIVe siècle, les membres de la famille, les ducs de Bourbon, étaient enterrés à Souvigny.
Bel endroit à visiter.
Magnifique endroit, trop peu connu.
Oui.
Et où il y a deux gisants, justement, il y a deux chapelles de part et d'autre du chœur. Une chapelle dans laquelle est enterré Louis II et sa femme Anne Dauphine, et l'autre qui contient les restes de leur successeur, Pierre II. Voilà.
Pierre II et Anne de Beaujeu.
Anne de France, la fille
de Louis XI. Oui.
Et ces statues sont encore très bien conservées, tout à fait visibles aujourd'hui. Donc, peut-être que Louis II aurait aimé se faire enterrer chez les Célestins, mais d'une part, le couvent n'était pas terminé, et d'autre part, il y avait quand même le poids de la tradition dynastique qui faisait que les ancêtres ayant été à Souvigny, c'était quand même difficile de rompre avec la tradition. Vous voyez.
Alors, après cet ordre des Célestins, vous nous avez déjà dit dès le départ qu'il va continuer, puis finalement être dissous sous la Révolution. C'est-à-dire là, on aborde la fin de cet ordre.
Ça, à sa grande époque, donc ça a été le 14e, 15e. Il a compté des hommes éminents, des auteurs d'ouvrages de spiritualité. C'est un ordre vraiment important, d'autant plus que nous sommes à l'époque du grand schisme, à l'époque où il y a plusieurs papes et plusieurs obédiences. Et donc la province de France des Célestins était devenue totalement autonome parce qu'elle avait reconnu le pape d'Avignon. Tandis que les Célestins d'Italie avaient reconnu le pape de Rome, qui s'affrontaient, comme vous le savez, qui se sont affrontés jusqu'en 1415, 17, même jusqu'au concile de Constance. Alors, jusqu'à ce qu'on élise, il y a de nouveau un pape commun à toute la chrétienté. Donc les Français étaient devenus totalement autonomes, et ils vont même créer des établissements en Italie, ce qui est une sorte de concurrence plus ou moins loyale. Et ils vont en particulier mettre la main sur le grand sanctuaire de l'ordre, qui est la basilique de Colle Maggio, qui est une très belle église à L'Aquila. Et on en a parlé l'an dernier, parce qu'il y a eu ce terrible tremblement de terre à L'Aquila, qui est dans les Abruzzes, la capitale, enfin le chef-lieu des Abruzzes. Et, entre autres destructions, cette magnifique église où il y avait le tombeau de Célestin V, le fondateur, a été détruite par le tremblement de terre. Mais les Français avaient réussi, au début du XVe siècle, à mettre la main sur ce qui était un peu le berceau de l'ordre, vous voyez. Donc c'était une province extrêmement, plus qu'une province, c'était véritablement un ordre qui était très largement dominé par les Français. Alors ensuite, les choses vont évoluer dans un sens moins favorable, je dirais surtout à partir du XVIe siècle, parce qu'on voit se reproduire, c'est assez étonnant là aussi, il faudrait réfléchir un peu là-dessus, pratiquement la même histoire va se passer avec Louis XI. Louis XI, qui était un homme très angoissé, très malade, mais enfin qui était surtout, il avait très peur de mourir, fait venir à la fin de sa vie, du fin fond de l'Italie du Sud, un autre ermite, qui s'appelle Saint François de Paul.
De Paul, oui, voilà. Mais alors qui n'était pas célestin, lui.
Qui n'était pas célestin, mais qui était aussi un de ces ermites qui avait créé une congrégation aussi, qui était aussi très ascétique, qui se réclamait aussi de la pauvreté intégrale, etc. Donc, Louis XI fait venir au Plessis-les-Tours cet ermite qui avait la réputation d'être un guérisseur, et Louis XI espérait qu'il le guérirait de ses maladies. Manque de chance, le roi est mort 6 mois après l'arrivée du saint homme, mais l'ermite, qui était aussi un bon directeur spirituel, avait réussi à lui apaiser ses angoisses, et Louis XI, semble-t-il, est mort dans une certaine sérénité, alors que c'est un personnage très, très angoissé par la peur de mourir. Bref, une fois Louis XI mort, ses successeurs, Charles VIII en particulier, son fils, supplient François de Paul de rester en France, où il va rester jusqu'à sa mort en 1507, et il va fonder en France, avec l'appui de la monarchie française, un nouvel ordre religieux, ce qu'on appelle les Minimes, qui lui aussi se veut très, très modeste, très pauvre, très ascétique, et qui va devenir l'ordre royal par excellence. Avec donc le même processus qui s'était vérifié avec Philippe le Bel et Charles V, nous le retrouvons à partir de Charles VIII, Louis XII, et ainsi de suite, jusqu'à Louis XIV. Et donc finalement, les rois de France n'ont jamais laissé tomber les Célestins, mais disons que... c'est comme dans les modes, il y a des modes, il y a des ordres qui sont mieux vus que d'autres à une certaine époque par le pouvoir ou par l'opinion publique. Et donc l'ordre à la mode à partir du XVIe siècle en France,
c'est les Minimes.
Et qui est soutenu par le pouvoir royal, ce sont les Minimes.
Et qui va s'implanter de manière abondante.
Qui va s'implanter, alors beaucoup plus que l'avaient fait les Célestins qui, je vous l'avais dit, avaient...
Qui restaient à 35, vous m'avez dit. Oui.
Voilà, eux vont arriver à 150 couvents la veille de la Révolution. Donc c'est pour ça qu'il y a guère de ville de France qui n'est pas une rue des Minimes ou un quai des Minimes. Mais qui vont également disparaître avec la suppression révolutionnaire. Mais ils vont survivre, ils existent encore, les Minimes, à la différence des Célestins, mais ils survivent uniquement en Italie, leur berceau, où ils sont toujours implantés, en particulier à Paola, parce que cette ville que nous appelons Paul, P-A-U-L-E, son vrai nom, c'est Paola, en Calabre, où il y a le grand sanctuaire avec la tombe de Saint-François de Paul, comme disons en français. Voilà, donc ce sont deux histoires parallèles qui se succèdent dans le temps, et qui ont fait que finalement, la mémoire des Célestins en France, je ne dis pas qu'elle a disparu, mais elle est assez faible.
Alors André Vaucher, est-ce qu'il y a d'une manière globale beaucoup d'ordres qui comme ça ont été créés au Moyen-Âge, ou d'ailleurs certains conciles ont dit qu'il y en avait trop, et qui sont maintenant disparus ou qui ont maintenant encore une existence? Quelle est la proportion?
Alors c'est
D'abord, il y a des ordres qui ont disparu en France, mais qui n'ont pas disparu ailleurs, parce que la Révolution française et l'époque napoléonienne ont été extrêmement durs vis-à-vis des ordres religieux. Enfin, les ont supprimés, les ont fermés de force, de gré ou de force, en tout cas. Donc, vous avez des congrégations, j'évoquais les minimes, par exemple, qui ont disparu de France, mais qui ont continué à exister ailleurs. Certaines ont totalement disparu, comme les Célestins. En fait, il y a eu un mouvement au XIXe siècle de recréation d'ordres religieux qui avaient disparu dans notre pays à l'occasion de la Révolution. L'exemple le plus fameux, c'est celui des Dominicains, l'ordre dominicain qui était né au XIIIe siècle, les frères prêcheurs de Saint-Dominique, contemporains des franciscains, des frères mineurs de Saint-François, avait été supprimé comme tous les ordres religieux à la Révolution. Mais il est relancé après 1830 en France par Lacordaire, qui va recréer, Père Lacordaire, qui est un grand prédicateur de Notre-Dame, enfin, un des orateurs sacrés les plus célèbres du XIXe siècle, et puis d'autres autour de lui, vont recréer l'ordre dominicain qui avait subsisté ailleurs, en Italie ou dans d'autres pays, l'Espagne, mais qui en France était éteint. Et donc on va y avoir une nouvelle série de fondations de couvents dominicains, etc. Voilà. Donc il y a comme ça des histoires assez syncopées, et avec des brisures, des interruptions, et puis parfois, mais pas toujours, des reprises. Oui. C'est même, on peut dire la même chose de l'ordre, enfin, des bénédictins, qui ne sont pas un ordre comme les autres, parce que les bénédictins se partagent entre plusieurs obédiences, mais là aussi les bénédictins avaient disparu avec la Révolution. Et puis, dans les années 1830-40, eh bien, on recommence à fonder Don Guéranger, qui a relancé le monachisme en France, a fondé le monastère de Solesmes. Et à partir de Solesmes, il y a eu une renaissance.
Les Chartreux, par exemple.
Alors, les Chartreux, même chose. Les Chartreux avaient disparu, même à la Grande Chartreuse, à l'époque révolutionnaire. Et ils vont se réimplanter. Je ne sais plus si sous la monarchie de Juillet ou sous le Second Empire, mais enfin, ils vont refonder ou réoccuper des monastères.
En fait, quand on dit que le XIXe siècle a été un siècle de nouveaux ordres, ce n'est pas tout à fait juste. Au fond, ça a été un siècle à cause de la Révolution qui a recréé des ordres disparus.
Il y a d'une part une césure quand même de 20 ou 30 ans au moins liée à la Révolution française qui avait supprimé tous les ordres religieux. Et puis, il y a eu des relances donc plus ou moins rapides, plus ou moins réussies. Mais il est indéniable qu'au XIXe siècle, il y a eu création de quantité de nouveaux ordres religieux, surtout féminins d'ailleurs, plus que masculins.
Et missionnaires aussi.
Voilà, les Dames du Sacré-Cœur, toutes sortes de congrégations, surtout orientées vers l'éducation des jeunes filles, ou bien des œuvres de charité, ou des congrégations missionnaires, les Pères Blancs. Alors ça, c'est tout à fait nouveau, oui.
Alors, André Vaucher, avant de nous quitter, en vous remerciant de toutes ces précisions, vous venez de faire paraître, donc, en ce milieu d'année 2010, un ouvrage sous votre direction qui s'intitule « Dictionnaire des temps, des lieux et des figures du christianisme ». Il est paru en février 2010 aux éditions du Seuil. Un mot sur ce dictionnaire. Qu'a-t-il de particulier ?
Alors, ce dictionnaire pourra un peu surprendre parce qu'il n'est pas énorme. Il a 500 pages, ce qui est peu pour un dictionnaire, mais ça a été voulu par l'éditeur et par moi-même. Il nous a semblé que ce qui manquait peut-être dans l'édition française, c'était un dictionnaire, je dirais pas grand public, mais enfin accessible à des non-spécialistes ou à des personnes qui n'appartiendraient pas nécessairement à une église catholique, protestante ou autre. Et même, je crois d'ailleurs que les fidèles de ces églises souvent ont besoin
oui, je crois aussi.
d'enrichir un peu leurs connaissances. Bref, nous voulions faire quelque chose d'assez court. Enfin, l'éditeur nous a imposé d'ailleurs de faire des articles brefs, mais en même temps de qualité synthétique. Et pour cela, j'ai fait appel à vraiment aux meilleurs spécialistes, aussi bien dans le domaine historique que dans le domaine de la théologie, puisque ce dictionnaire n'est pas seulement un dictionnaire d'histoire, mais aussi brasse des notions théologiques. Alors, pourquoi ce nom, ce sous-titre, les temps, les lieux et les figures ? Bien parce que, en 500 pages, résumer le christianisme, c'était évidemment impossible.
Et
il a fallu choisir quand même des parties. Il existe déjà des dictionnaires de théologie, des dictionnaires de droit canonique, des dictionnaires des ordres religieux, tout ce qu'on veut. Donc, il n'était pas question de refaire ce qui a déjà été fait très bien ici ou là. Mais il nous a semblé que ce qui n'avait peut-être jamais été fait, c'était d'étudier le christianisme, je dirais les christianismes, pas seulement l'occidental, mais les orientaux aussi, dans une perspective historique. Alors, les personnages, les grandes figures, mais aussi, surtout, le mot figure a un sens très précis dans le christianisme. Ce sont des personnages dont on reparle sans arrêt depuis l'origine. Je prends un exemple, celui d'Abraham. Abraham, c'est un personnage biblique, mais le Christ peut, dans les évangiles, on parle d'Abraham, et le Christ en parle dans sa prédication. Ensuite, Abraham devient un personnage au Moyen-Âge, par exemple. Les morts retournent dans le sein d'Abraham, donc il y a toute une iconographie liée au fait que Abraham accueille les morts dans son sein, une sorte de figure du paradis, de l'au-delà. Et puis aujourd'hui, il y a toutes sortes de mouvements.
Les enfants d'Abraham, oui.
Les enfants d'Abraham, la fraternité d'Abraham pour les rapports avec les musulmans, etc. Donc on voit que c'est un personnage clé de l'histoire du christianisme qui a toujours été une référence et qui a pu avoir, selon les périodes, des significations différentes. Oui. Ou c'est comme Augustin, Saint Augustin, c'est évidemment un très grand saint. Personnage qui a écrit une œuvre tout à fait considérable. Mais il a été, j'allais dire, utilisé, il a été cité, utilisé, selon les périodes, dans des sens très différents. Au Moyen-Âge, par exemple, on a surtout été frappé, on s'est surtout inspiré de la règle qu'il avait écrite pour son presbytérium, enfin le groupe de prêtres qui vivaient avec lui. Et le mouvement des chanoines réguliers, qui s'est développé au XIe, XIIe siècle, s'est donné pour règle la règle de saint Augustin. C'est surtout, on le voit comme un modèle de vie commune chrétienne pour des groupes de prêtres, etc. Alors qu'au XVIIe siècle, on discute, on s'étripe même au nom de saint Augustin, entre jésuites et jansénistes sur la grâce, donc c'est tout à fait un autre problème, mais toujours au nom d'Augustin. Voilà.
Donc quand on traite un personnage, on le suit dans la longue durée.
C'est ça l'originalité du parti que nous avons cherché à suivre.
Le dictionnaire des temps, je n'avais pas encore trop bien compris ce que ça voulait dire. Donc merci de cette explication. Et nous souhaitons que ce dictionnaire rencontre le succès qu'il mérite. Combien de collaborateurs avez-vous fait travailler ?
Bien 130, c'est quand même 130, pour un dictionnaire qui n'est pas énorme. Ça prouve que chaque fois, nous avons eu...
coordonner tout cela.
Le souci de faire appel au meilleur.
Merci André Vaucher. Donc je rappelle que nous avons aussi avec vous disponible sur Canal Academy une émission sur Saint François d'Assise et une émission aussi sur le rayonnement des ordres religieux dans l'Europe. Merci et à bientôt peut-être pour une autre émission quand vous publierez un autre livre.
Merci.
Merci à vous.